Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On termine ce matin notre série d'émissions sur l'étreinte de la chimie sur nos vies en s'intéressant de près aux abeilles et aux apiculteurs. Bon, bah, si on espérait voir des abeilles aujourd'hui, c'est loupé. Il pleut, averse, il y a même de l'orage, on l'entendra peut-être. Donc, pour les abeilles, non. En revanche, les apiculteurs, il y en a deux ici. C'est déjà pas mal. Jean Sabin, comment est-ce qu'on vous présente, vous ? Vous êtes apiculteur, vous êtes retraité de l'apiculture, vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ?
Oui, apiculteur professionnel, retraité. Actuellement, j'étais apiculteur dans le Haut-Languedoc.
Pendant longtemps ?
Oui, pendant plus de 30 ans. Une bonne partie de mon existence professionnelle.
Et le jour où on arrête, où on prend sa retraite, on ferme toutes les ruches ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, j'en ai conservé pour la production familiale et en même temps pour faire apprendre les abeilles, l'apiculture aux petits-enfants.
Et vous, Thierry Dolivet, vous êtes apiculteur en exercice depuis combien de temps ?
Mais j'exerce la profession d'apiculteur depuis, on va dire, depuis 1991. On fait de l'apiculteur à plein temps, avec ma femme.
En Creuse ?
Donc on est aujourd'hui en Creuse, on a démarré en fait dans le Poitou, entre Poitiers et Parthenay.
Vous avez démarré sur un coup de tête ou
On aimait trop le miel, trop gourmand en miel, et donc on a commencé à avoir quelques ruches et voilà où ça nous mène.
C'est vrai, c'était le plaisir du miel au départ.
Mmh, tout à fait. On est des gros consommateurs de miel, on n'utilise pas de sucre. Depuis qu'on est apiculteur, on réutilise du sucre, bizarrement. Mais...
pour les ruches, mais ça, on y reviendra.
Oui, pour nourrir les abeilles pendant l'hiver, qui sinon, certaines mourraient de faim. On vient aussi à l'apiculture par l'intérêt des fleurs. Donc on est un petit peu obligé de s'intéresser à la botanique, puisque... même si on a affaire à une protection animale, quelque part, c'est autant une production végétale, l'apiculture.
Une production végétale, c'est-à-dire vous cultivez des fleurs pour vos abeilles ?
Eh bien, disons que le nectar que les abeilles ramassent, c'est un vrai produit qu'elles transforment à peine. Et ce qui fait que des fois, on se pose la question, on a une production végétale, une production animale, c'est un petit peu des deux.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez bougé du Poitou à la Creuse ? Justement, c'était parce que vous aviez d'autres fleurs, vous avez choisi votre flore ?
On a démarré l'apiculture là où on était installé, c'est-à-dire dans le Poitou. Et à l'époque, donc, c'était dans un contexte miellet de colza, miellet de tournesol, dans une zone bocagère à l'époque, qui l'est moins maintenant, mais bon, quand même surtout céréalière. Un endroit où on vivait bien de l'apiculture en termes de production. Et c'est vrai qu'on a connu un arrêt brutal, en fait, dans le milieu des années 90. Là. Pour nous, c'était en 96. Où brutalement, la production a chuté, sans pouvoir vraiment comprendre pourquoi, puisque on voyait pas vraiment d'abeilles mortes devant les ruches. C'est-à-dire que après une semaine de miellée sur les tournesols, les butineuses disparaissaient, la colonie fondait. C'est vrai que tout au début, tout le monde s'est posé des questions un peu d'où cela pouvait bien venir. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas beaucoup évolué, puisque cette année encore, j'entendais de collègues de la Vendée, de Charente, ou de la région centre, où il y a toujours le même phénomène, où finalement, ça fait un petit peu de miel dans la première hausse, ça travaille pendant 5-6 jours, et au bout de 5-6 jours, ça s'arrête. On entend comme ça des hypothèses qui seraient liées à des variétés de tournesol qui aujourd'hui seraient moins productives en hectares. Donc les apiculteurs parfois bougent leurs ruches pour les emmener sur les floraisons. Donc on a deux lots de ruches, un lot de ruches qui a démarré la floraison qui au bout de 5 jours s'arrête, ne produit plus rien. Et une semaine, 8-10 jours plus tard, de ramener un nouveau lot de ruches, celle-ci, même phénomène, elle travaille pendant 5-6 jours et après plus rien. Donc l'hypothèse...
Donc c'est bien qu'elles ont trouvé du nectar pendant 5-6 jours tout de même.
Oui, c'est ça, c'est que pendant les 5-6 premiers jours, ça travaille bien, les cadres sont bien remplis, mais ça s'arrête brutalement.
Donc là, on est dans le mystère. Jean Sabinck, est-ce que vous, qui avez commencé donc plus tôt l'apiculture, Vous avez vu des périodes comme ça étranges? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques, en quelque sorte? Je ne sais pas quel est le mot, puisque là, on ne peut pas parler d'attaque, on ne sait pas, on est dans le mystère. Est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes comme celui-là?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai changé mon mode de production, et parce que je faisais du miel et puis... J'avais eu quelques intoxications auparavant sur du colza, mais des intoxications aiguës avec une mortalité d'abeilles, beaucoup d'abeilles mortes dans les ruches, devant les ruches, jusqu'au champ de colza. Bon, j'avais fui les colzas. Et puis ensuite, le tournesol produisait beaucoup. On faisait 50 à 80 kilos de moyenne par ruche sur le tournesol. Et puis tout à coup, en 99, j'ai vu quelque chose qui est un peu extraordinaire, qui arrive de temps en temps, mais pas très souvent. Porter les ruches, un premier voyage de ruches et de tournesol, où j'allais depuis une dizaine d'années, au moins, sans problème. Et le lendemain, porter un second voyage, j'ai allé voir les premières, et plus de butineuses, c'est-à-dire que la moitié des abeilles avaient quitté la colonie en 24 heures. Et puis les voyages suivants, ça s'est produit ainsi. On travaillait à plusieurs apiculteurs, on est allé voir les ruchers voisins, c'était exactement la même chose partout. Bon, une baisse de production, mais en même temps, on a commencé à avoir 20-30% de mortalité en hiver, là-dessus. L'année suivante, j'ai porté un petit peu moins de ruches dessus, je me méfiais, et ça recommençait. Pas de la même façon. La disparition n'a pas été brutale, mais il y avait perte de population et perte de récolte et mortalité d'abeilles pendant l'hiver. Donc du coup, ensuite, j'ai arrêté de fréquenter les zones cultivées pour aller produire du miel de fleurs sauvages et passer avec une certification bio ensuite.
Avec des résultats, avec une amélioration de la situation ?
Avec une amélioration de la situation, surtout moins de pertes hivernales, etc. Mais ensuite, petit à petit, ça finit par se généraliser un petit peu. On a moins de pertes, mais il y a quand même des pertes hivernales. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on constate actuellement, c'est une perte de fécondité des rennes. C'est-à-dire qu'on travaillait facilement avec des rennes qui avaient 2 ans, et parfois certaines 3 ans. Et qu'actuellement, on se trouve, de temps en temps, on trouve des rennes qui pondent très bien, et au bout de 6 mois, elles ne pondent plus. Il y a un problème de spermatozoïdes.
Comme s'il y avait une espèce de fatigue générale, fatigue du travail, fatigue de la reproduction, Thierry Dolivet ?
Comme ils le disent, d'ailleurs, elles pondent pendant 6 mois, et en fait, ce n'est pas que les rennes pondent moins bien, mais c'est un problème de stérilité des mâles, finalement. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien, entre-temps, dans les problématiques de pesticides, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mâles ont une quantité de sperme qui est beaucoup plus stérile et beaucoup moins vitale qu'il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il faut expliquer que la reine, en fait, a une fécondation une fois en début de vie pour, en fait, toutes les prochaines années de sa vie. Donc elle garde en stock et ce qu'elle va comme ça, qui va lui permettre de pondre des œufs femelles. Et donc, évidemment, si...
Il faut rappeler qu'une reine vit beaucoup plus longtemps qu'une ouvrière.
Oui, une reine peut vivre. Alors, il y a 20 ans, on imaginait qu'une reine pouvait vivre comme ça 4 à 5 ans. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans est le grand maximum. C'est-à-dire que des reines de 2 ans, souvent, elles arrivent en fin de carrière.
Vous le disiez, vous aviez commencé près de champs cultivés, tournesol, colza. Et puis, en fait, vous avez, comme Jean Sabin, vous avez choisi de vous déplacer pour essayer d'améliorer le sort de vos ruches.
Bah, choisi, c'est pas un réel choix. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'apiculteurs qui ont tout le monde a essayé de s'adapter à ce baisse de production et de trouver des solutions. Donc chacun selon ses compétences, selon le milieu, ses affinités. Donc nous, ça a été effectivement premièrement d'augmenter le cheptel comme beaucoup. C'est-à-dire qu'on a presque doublé le nombre de ruches à l'époque pour essayer de compenser, pour garder un niveau de production en miel à peu près équivalent. Ou espérer. Et puis après, ça a été effectivement la transhumance d'aller sur des zones, on va dire, moins céréalières, où l'utilisation de produits chimiques est quand même très inférieure à ce qui se passe en pleine céréalière, pour essayer justement d'aller sur des mêlées plus sauvages, on va appeler ça comme ça.
Là encore, avec un résultat ?
Au début, on se rend compte qu'effectivement, les premières années où on venait, la productivité, on se retrouvait à faire des grosses mêlées sur fleurs sauvages qu'on ne connaissait plus, alors que les plus grosses productions, autrefois, se passaient effectivement dans les zones céréalières grâce au tournesol. Hein, c'était des rendements énormes par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais finalement, ça s'est quand même... On a vite été confronté à des problèmes ici aussi, de mortalité hivernale selon les années, c'est un peu la roulette russe, très irrégulière et en tout cas bien supérieure à ce qu'on pouvait connaître autrefois. On sait quand même aujourd'hui que ces molécules qui à l'époque étaient juste utilisées sur tournesol et sur maïs sont utilisées quasiment sur toutes les cultures aujourd'hui. Et même ici, on est dans une zone forestière en grande partie. Depuis quelques années, la majorité des plants de Douglas au moment de la plantation...
Douglas, donc les pins Douglas.
Oui, du sapin, des résineux, qui sont en fait à la plantation traités avec la même molécule que le gaucho.
Pourquoi faire ?
Donc des granulés à la racine, la première année au pulvérisateur contre un... Il me semble que c'est un petit charançon, là, le lilobe, qui effectivement pique les jeunes plants. Et donc la problématique ici, c'est un petit peu comme les zones de grande culture, c'est la problématique de monoculture qui casse toute la biodiversité.
Bon alors, on va lever le voile du mystère qui n'en est évidemment plus un, puisque ça fait des années maintenant qu'on entend les apiculteurs appeler à changer les modes de production agricole et surtout à se passer des fameux pesticides. En fait, c'est ça. Mais est-ce que c'est véritablement la seule raison ? Ça, on y viendra dans un deuxième temps. Mais déjà, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous, en tant qu'apiculteur, d'abord, vous avez compris ce qui se passait, vous avez essayé de réagir, et finalement, vous êtes un peu traqué par cette question des pesticides, puisque vous avez beau vous éloigner des zones cultivées, finalement, vous en trouvez toujours sur votre chemin. Jean Sabin.
Déjà, quand ça m'était arrivé en 1999... Il y avait déjà l'expérience des collègues qui étaient en Vendée, parce qu'on a constaté les premiers dégâts la première année dans la première zone d'utilisation de ces produits-là. Il y avait déjà eu des plaintes. On soupçonnait un petit peu. Puis bon, les collègues ont rencontré Bayer, puisque c'était Bayer à l'époque. Et puis ils se sont rendus compte des expériences que faisait Bayer pour montrer que l'innocuité du produit sur l'abeille n'était pas sérieuse. Et on s'est mobilisé petit à petit. On a déposé des plaintes en justice. Il y en a eu une à Saint-Gaudens contre le fipronil, et le régent. Une autre à Paris contre le gaucho. Curieusement, les deux juges d'instruction qui étaient très intéressés, l'un a été muté à Mayotte et l'autre à Tahiti. Et ensuite, on a fait trois juges d'instruction, trois procureurs, pour finir, un procureur et un juge d'instruction qui déclare un non-lieu qui ne tient pas compte des pièces du dossier.
En quelle année ?
Le dernier non-lieu à Paris, c'était cette année même, et l'autre, ça devait être en 2006 ou 2007 environ. Ça montre que c'est bien difficile d'arriver là, mais à côté de ça, il y a les scientifiques, ils n'ont pas chômé. Ils ont travaillé énormément, il y a eu énormément d'études qui ont montré qu'avec ces produits-là, on avait des effets sublétaux.
Sublétaux, c'est-à-dire ?
Sublétaux, c'est-à-dire qui ne tuent pas. Qui ne tuent pas, mais qui perturbent l'abeille, d'une façon ou d'une autre, qui peuvent, par exemple, l'empêcher de trouver son chemin, ou bien lui font perdre un petit peu la mémoire, ou ses capacités d'apprentissage. Il y a d'autres effets, comme ça diminue la production de gelée royale, beaucoup d'autres effets, qui, s'il ne tue pas l'abeille, perturbent énormément la vie de la colonie, parce qu'il faut surtout prendre en considération qu'une colonie d'abeilles, ce sont 40 à 60 000 abeilles, moins en hiver, mais qui vivent ensemble. Et pour que cette vie ensemble puisse se faire, il faut qu'il y ait une bonne entente entre les éléments de là. Donc par exemple, si une abeille est incapable de signaler aux autres où se trouve une miellée, ou de réguler de la température, ou la teneur en gaz carbonique de la ruche, tout ça, ça ne fonctionne pas, ça ne peut plus fonctionner. À partir du moment où il y a un stress chimique qui est introduit, ça a des répercussions. Et quand les abeilles font les provisions pour l'hiver et qu'elles font des provisions de pollen et de miel qui est contaminé par des traces infimes, parce qu'on est passé de produits qui étaient utilisés au kilo à l'hectare à des produits qui sont utilisés à quelques grammes à l'hectare. Et même quand on prend la dose mortelle, une dose sublétale, c'est une dose qui peut être 10 000, 100 000 fois plus faible, à peine détectable, et même à des doses qui ne sont pas détectables, il y a un effet sur l'abeille. Donc, lorsque ces abeilles consomment jour après jour, en hiver, ces provisions qu'ils ont contaminées, eh bien on finit par arriver à une dépopulation au moment où la ruche devrait se développer, être assez forte pour se développer, redémarrer une nouvelle saison. Elle est trop faible et on a des ruches soit qui sont mortes, soit on a des poignées d'abeilles qui n'arriveront jamais à se développer.
Ce que je ne comprends pas bien, Thierry Dolivet, c'est que cette affaire continue depuis maintenant des années, depuis pratiquement plus de 15 ans. Comment est-ce qu'on peut encore, en 2014, en arriver à des non-lieux ? Est-ce que véritablement il y a un doute qui subsiste ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trancher dans cette histoire ? Pourquoi est-ce que les industriels, eux, continuent à proclamer haut et fort leur innocence et à affirmer que les pesticides qu'ils ont fabriqués n'ont rien à voir dans cette mortalité des abeilles ?
Vous comprenez bien que on est affaire à un problème qui est très sournois. Imaginez la ramasse du pollen de maïs au mois d'août, qu'avons consommé qu'au mois d'octobre, qui va donner des abeilles qui auront été mal nourries, qui vont mal grandir jusqu'à la fin de l'hiver, qui elles-mêmes auront un cycle de vie soit plus court, soit elles vont être moins en capacité de reproduire de la gelée pour élever les futures générations d'abeilles qui vont redémarrer à partir du mois de janvier-février. Et on voit apparaître le problème finalement en sortie d'hiver au mois de février-mars, alors que l'exposition a eu lieu au mois d'août. Donc tout ça contribue à une espèce de nébuleuse que justement toute l'agrochimie, l'UIPP, donc, qui est l'union de l'agrochimie, entretient et joue sur le fait qu'effectivement, c'est pas très facile de mettre les problématiques en lien. Alors heureusement que la recherche a quand même fait de nombreuses études qui a permis d'expliquer ce que nous, sur le terrain, on a constaté depuis le début. Quand on sait que l'imidaclopride, donc la molécule du gaucho, qui a été un petit peu l'emblème un peu de cette lutte depuis tout le temps, c'est l'insecticide le plus utilisé au monde. Il faut imaginer un petit peu l'ampleur que ça peut avoir. Donc en chiffre d'affaires, c'est énorme pour Bayer. Et donc on est effectivement confronté à un mur économique, alors que l'apiculture ne représente pas grand-chose.
Ces problèmes de mortalité, ils se retrouvent dans les autres pays. Vous parlez là de l'utilisation dans le monde entier de l'imidaclopride. Les résultats sont les mêmes un peu partout dans le monde. Jean Sabanc.
En France, ces molécules-là ont été commercialisées pour la première fois en France. C'est le premier pays où ça a été commercialisé. Ça a été commercialisé aux États-Unis à partir de 2007-2008, beaucoup plus tard. Et petit à petit, ils sont arrivés aux mêmes constatations que nous. Et avec le syndrome des populations des ruches, dont on a beaucoup parlé, nos collègues américains parlaient du mal français des abeilles. Et puis, ils ont mis un certain temps à incriminer ces molécules-là, disons les néonicotinoïdes, la famille de la nicotine. Mais maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté à ce niveau-là. Ils font les mêmes constatations et pratiquement tous les mêmes accusations que nous. Bayer continue, ils ont fait toute une caravane pour sillonner les États-Unis, pour montrer que leurs produits ne sont pas responsables et qu'il faut apprendre l'apiculture aux apiculteurs. D'ailleurs, en France, ils avaient édité un petit livre pour nous enseigner l'apiculture, comment il fallait soigner les ruches.
Vous avez appris des choses ?
Oui, tout à fait. On a appris exactement ce qu'étaient capables de faire ces gens-là. Et on a compris aussi qu'il y avait un certain nombre, de collègues qui étaient prêts à les aider.
Mais est-ce qu'il y avait vraiment des pratiques différentes des vôtres qui étaient proposées, ou bien est-ce que ça se contentait de redire ce que vous saviez déjà par cœur, ou est-ce que...
Ils se contentaient de redire ce qu'on savait déjà, ils se contentaient d'attirer davantage l'attention sur les questions de biodiversité, des questions qui sont vraies exactement, mais c'est la même technique qu'utilisent les fabricants de tabac pour montrer que le tabac, essayer de montrer que le tabac n'était pas responsable des cancers, et bon... Voilà, c'est les mêmes genres de techniques pour toute l'industrie, pour les médicaments aussi et tout.
Thierry Dolivet.
Oui, parce que cet argument qu'on entend un petit peu pour noyer, non pas le poisson là, mais pour noyer l'abeille, de dire qu'il y a des problèmes sanitaires, il y a des virus, il y a du varroa. Bon, ça fait... le varroa est arrivé depuis maintenant une trentaine d'années. On a appris à le gérer. Effectivement, c'est un parasite qu'il faut maîtriser. Et on le maîtrisait avant l'arrivée des insecticides systémiques, et il faut toujours le maîtriser aujourd'hui. La différence, c'est que c'est un peu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'on se rend compte que les abeilles résistent, sont beaucoup plus fragiles aux pathologies, beaucoup plus fragiles aux attaques des varroas, au virus et qui fait qu'effectivement la problématique sanitaire est très sérieuse et il faut la maîtriser, mais qu'il suffirait d'écarter ces insecticides systémiques pour que d'un seul coup, c'est un peu comme si l'immunité de l'abeille retrouverait un peu plus de vivacité. Et l'exemple de l'Italie était quand même très intéressant. On a la chance d'avoir un exemple à grandeur nature sur l'ensemble d'un pays, hein, où entre 2009 et 2012, l'utilisation de systémiques ont été... C'est-à-dire, il y avait 4 molécules.
Vous devriez peut-être rappeler ce que sont les insecticides systémiques.
Quand on parle du gaucho, c'est vrai que la grande nouveauté en agriculture, ça a été de ne plus intervenir avec des pulvérisateurs dans les champs. Donc on a tous cette image un petit peu de pulvée qui passe dans les champs, mais d'utiliser les semences, de les enrober, de les enfouir au moment du semis.
Là, vous parlez des semences de tournesol, de colza, etc.
Aujourd'hui, toutes les semences sont enrobées. Et donc avec un produit qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que c'est on a un produit qui est dans le sol, que la racine de la plante va absorber, qui fait que finalement l'insecticide va se retrouver dans toute la plante. Et on est aujourd'hui face à des plantes insecticides.
Ce sont aujourd'hui les plantes qui tuent les abeilles.
Qu'un puceron grignote une feuille de blé ou qu'un pollinisateur vient prendre du pollen sur une plante mellifère ou prendre du nectar, dans toute la plante, il y a de l'insecticide. Et donc, c'est cette systémie qui a révolutionné un petit peu l'utilisation en agriculture, fait qu'on a une omniprésence de ces molécules et qui, l'aberration, c'est que finalement, on est face à un modèle agricole qui non seulement ne réfléchit pas à gérer les problèmes culturaux d'une façon globale, en prenant en compte les rotations, l'agronomie et tout ça, mais on en est plus seulement à utiliser des produits chimiques quand il y en a besoin, mais d'une façon systématique.
C'est-à-dire qu'on n'attend même plus qu'il y ait des attaques d'insectes ravageurs pour traiter, d'entrée de jeu, toutes les semences sont traitées.
Oui, c'est-à-dire qu'un blé, on va traiter un blé au moment du semis, contre le topin, mais aussi contre des attaques éventuelles de pucerons qui pourraient avoir lieu au mois d'octobre-novembre.
Ou ne pas avoir lieu.
Sans savoir si ces attaques de pucerons auront lieu. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui des quantités de pesticides comme une assurance tout risque. Et c'est une aberration complète en termes de système agricole. Donc, avec tous les effets qu'on connaît, autant sur la pollution de l'eau, puisqu'on le retrouve dans l'eau du robinet. Combien de communes aujourd'hui l'eau du robinet n'est plus potable à cause des résidus en pesticides. Et donc, tous les pollinisateurs sont confrontés de plus en plus à cette omniprésence de systémique.
Quand vous dites aujourd'hui, c'est depuis quand à peu près? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre le début des mortalités massives dans les colonies et l'utilisation de ces pesticides systémiques? Jean Sabanc?
Oui, concernant le gaucho, on l'a constaté, ça a été commercialisé en 1994. Dans les quelques cantons où cela a été commercialisé, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, il y a eu des interrogations qui ont été faites, les protections des végétaux ont été saisies, les DSV ont été saisies, on fait des constatations, on fait des analyses, mais à l'époque, on n'avait pas les outils d'analyse suffisants pour pouvoir détecter ces faibles, très faibles niveaux. Et au fur et à mesure que l'utilisation de ces produits se faisait, on a vu les problèmes augmenter et on a vu la diminution de miel, des miels de tournesol, mais de l'ensemble des miels qui a été fait. On a fourni en justice des dossiers qui montraient bien, par exemple de la coopérative France Miel ou la production de coopérative Poitou-Charentes et d'autres, l'augmentation corrélée entre les superficies traitées et les tonnages produits. Ça, c'était absolument évident. Il faut dire qu'avec ces produits-là, on a changé complètement la donne. C'est un produit qui est, d'une part, très toxique. Quand on prend une échelle de toxicité des insecticides, si on prend pour base le DDT, on dit 1, là, ils sont 7000 à 8000 fois plus toxiques que le DDT, en toxicité aiguë. Ensuite, il y a la toxicité sublétale, dont on a déjà parlé, à des doses encore moindres. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a le fait que c'est, comme déjà expliqué, c'est systémique, ça passe dans la plante tout le temps, pendant toute la vie de la plante. Mais il y a un autre aspect aussi, très important, que ça perdure dans le sol pendant 3, 4 ou 5 ans. Et il a été démontré que des plantes non traitées on en trouvait des niveaux quasiment équivalents que ceux d'une plante traitée dans le pollen et le nectar de la culture qui vient l'année suivante. Ensuite, il y a les traitements systémiques de semences, enrobage de semences, des grandes cultures, tournesol, maïs, les céréales. Tout ça, ça fait des millions et des millions d'hectares qui sont traités. Plus les traitements foliaires sur les productions de légumes, ça ne fait pas grand-chose, mais sur tous les fruitiers pratiquement. Donc ça fait des quantités de superficie. Et on a retrouvé, déjà en 2004-2005, des résidus d'imidaclopide, de la molécule du gaucho, dans près de 70% d'échantillons de pollen prélevés par cette ELAFSA qui faisait ces analyses-là, sur des pollens provenant de plantes cultivées ou de plantes non cultivées et non traitées. On trouvait partout.
Alors c'est sûr que vous, apiculteur, vous vous êtes particulièrement soucié du sort des abeilles, mais est-ce que ces pesticides qui sont absolument partout aujourd'hui, on a pu également déceler des conséquences sur toute la faune, les insectes, enfin, il y en a énormément. Vous parliez tout à l'heure, Thierry d'Olivet, du fait que ça reste dans l'eau, vous, Jean Sabin, que vous rappelez que ça reste également dans les sols. Donc j'imagine que la faune, et en particulier la microfaune, doit être atteinte aussi, Jean Sabin.
Depuis 4 ans, à peu près, il y a un groupe d'une trentaine de scientifiques au niveau international qui ont travaillé le plus discrètement possible et qui viennent de sortir les publications actuellement, analysant plus de 800 publications scientifiques sur l'effet des néonicotinoïdes. Et ils tirent vraiment la sonnette d'alarme parce que c'est toute la biodiversité qui est concernée. Il y a les abeilles, les pollinisateurs, il y a aussi les insectes vivants du sol parce que tous ces insectes vivants dans le sol, il y en a qui sont préjudiciables pour les cultures, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait indispensables pour la vie, la relation entre la plante et le sol, la décomposition de la matière organique, le travail des vers de terre. Mais ils sont extrêmement toxiques aussi pour toute la faune aquatique, les poissons, mais tous les petits animaux qui vivent dans l'eau, les oiseaux, et ainsi de suite. Et puis, au départ, on avait dit que les mammifères n'étaient pas du tout concernés, ça n'avait pas d'effet sur les mammifères. Donc il y a eu très peu d'études là-dessus, mais les quelques études qui ont été faites ces deux ou trois dernières années tirent la sonnette d'alarme. Il y en a certains même qui s'inquiètent sur le développement cérébral du nouveau-né. Humain, pas simplement animal.
Ce que je retiens, que je trouve très frappant dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que ce sont les plantes, c'est-à-dire qui nourrit depuis toujours toute la faune, et les humains entre autres, qui sont devenus toxiques voilà. Pour l'ensemble de la faune, humain compris. Depuis quelques années, depuis moins longtemps, on a l'impression que les malheurs s'abattent sur les abeilles, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, il y a toujours ces pesticides que vous avez longuement évoqués l'un et l'autre. Mais on entend parler, en effet, du varroa. Donc vous disiez que le varroa était là depuis plus longtemps, mais de fait, on en parle beaucoup plus maintenant. Et puis il y a le frelon asiatique. Et puis cette année, il y a le changement climatique. Il y a la loque américaine. Donc comment est-ce que vous reliez tous ces éléments les uns aux autres? Est-ce qu'il y a un lien, d'abord, entre ces éléments? Jean Sabinque.
Oui, mais le changement climatique... Moi qui suis dans le Midi, je le vois peut-être un peu plus parce qu'on a eu certaines années avec des automnes très secs. Et l'automne est une période cruciale pour la colonie de l'abeille parce qu'elle doit faire ses provisions et en même temps refaire dans le Midi du moins. Il faut qu'elle refasse une population pour passer l'hiver, pour bien passer l'hiver. Et s'il y a un automne sec, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de nectar. Et on peut stimuler les ruches en les nourrissant avec du sucre et tout. On n'arrive pas à avoir des colonies suffisantes. Et il y a des problèmes ensuite, parce que, étant donné qu'il y a quand même une mortalité hivernale, on arrive en fin d'hiver avec des colonies qui sont beaucoup trop faibles, ou parfois même des colonies qui sont trop faibles pour entamer la période hivernale. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, il y a un certain nombre de mielées qu'on ne fait pratiquement plus. La bruyère calune, on en faisait une certaine production qui était très intéressante pour les apiculteurs parce que ça payait très cher. Et puis ça fait des années qu'on n'en fait pratiquement pas parce que le temps ne permet pas à la plante de se développer dans de bonnes conditions pour produire du nectar. Et puis il y a du mauvais temps au moment du nectar où la plante est trop sèche pour produire. Donc ces différents aspects, il y a aussi le changement de temps aussi au printemps. Moi, dans la fin du printemps, je voyais en zone de montagne, chez nous, la meilleure période, c'était la première semaine du mois de juin. S'il faisait beau, les ruches pouvaient faire 15-20 kilos en une semaine. C'était le moment bien, quand le temps le permettait, si l'économie était belle. Mais depuis des années, on n'a pas du beau temps à ce moment-là. Les floraisons passent et ensuite, bon, il faut qu'elles rattrapent sur d'autres floraisons qui sont peut-être moins intéressantes. Donc, l'abeille est très sensible au changement climatique. Alors, bon, on essaie d'adapter ou de rattraper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas... Il y a des mêlées qui passent et qu'on ne peut pas plus les produire.
Et puis, je le disais, il y a tous ces prédateurs, le frelon asiatique, la loque américaine.
Voilà, le frelon asiatique, on en a beaucoup parlé. Pour l'instant, ça semble être un petit peu moins. Maintenant, on se rend compte qu'il a des parasites. C'est quelque chose de plus qui vient là-dessus. Les maladies, elles existaient déjà, mais on a constaté que les capacités de défense immunitaire de l'abeille diminuaient. Ça, c'est une chose. Il y avait une synergie entre les néonicotinoïdes et certains virus et certains pathogènes comme Nosema aussi.
Nosema ?
Oui, Nosema serenaes, c'est un parasite fongique de l'abeille. C'était une maladie qui par elle-même est gênante, mais qui n'était pas trop fréquente. Et de toute façon, à partir du moment où il y a une synergie avec un insecticide qui est présent dans la colonie, ces effets sont plus importants actuellement.
Thierry Dolivet, vous voulez ajouter quelque chose ?
Tous ces facteurs dont on entend et qu'on essaierait de nous faire croire qu'effectivement, il y a une multitude de problèmes, mais tout comme actuellement, il y a un moratoire européen, comme vous l'avez sans doute entendu.
Un moratoire européen ?
Sur certaines molécules, mais dont on tendrait à croire, pour beaucoup de gens, enfin, le retour qu'on a des fois, c'est de s'entendre dire aujourd'hui, ces molécules sont interdites. Toutes les néonicotinoïdes sont interdits. Or, il y a seulement quelques molécules qui sont interdites, et pas sur toutes les cultures, c'est-à-dire que l'essentiel de l'utilisation de toute cette famille d'insecticides systémiques est encore bien plus utilisé qu'il y a 10 ans. Avec un moratoire partiel de 2 ans, on ne peut rien espérer d'un tel moratoire, puisque entre les rémanences qui sont de 2 à 3 ans, entre l'effet...
Les rémanences, ça veut dire le fait de rester dans le sol et de se retrouver dans les plantes les années suivantes, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, une molécule peut être interdite sur, mettons, un colza ou un tournesol, mais comme elle est toujours utilisée sur les blés, l'année d'après, derrière un blé, les agriculteurs, par exemple, peuvent semer un tournesol. Et donc, on va à nouveau être confronté à cet effet sournois où les abeilles se perdent. Alors, quel résultat peut-on tirer d'une interdiction partielle et sur un temps aussi court ? Donc, tout à l'heure, on a évoqué l'exemple en Italie.
Ah oui, d'ailleurs, je vous avais coupé dans votre élan. Vous allez peut-être maintenant nous raconter ce qui s'est passé là-bas.
Ce qui était intéressant, c'est que pendant ces 4 années, tous les systémiques qui étaient autorisés à cette époque, donc en enrobage de semences, c'est-à-dire pendant 4 ans, ont été interdits sur toutes les cultures. Et donc le maïs en premier lieu, donc les agriculteurs ont dû gérer différemment la production, enfin les problématiques liées au topin, qui justifient cet emploi de pesticides. Donc la première chose qui est intéressante, c'est de voir que finalement les productions en rendement maïs n'ont pas chuté. Donc une interdiction sur une famille ne mettrait pas en péril l'agriculture française avec des rendements, des chutes pour les productions en maïs ou en céréales. Et surtout, on a vu que pendant cette période, les mortalités d'abeilles, des chiffres du ministère de l'Agriculture italien qui étaient de l'ordre de 37%, sont tombées au bout de la troisième année, en fin de troisième année, à 13%. Les varrois étaient toujours là, les frelons asiatiques, s'il était déjà là, il était là. Enfin, les multiples pathologies, virus et autres n'ont pas cessé. Le seul changement, ça a été, d'une façon très globale, d'interdire juste ces insecticides systémiques. Et donc avec un certain retour à une certaine, presque quelque chose de normal.
Est-ce que tout de même, vous ne pensez pas, Thierry Dolivet, Jean Sabinck, que... On ne peut pas juste arrêter l'emploi des pesticides. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur la façon dont l'agriculture et l'apiculture ont évolué au cours des dernières décennies On sait qu'il y a eu une très forte industrialisation de l'une comme de l'autre, finalement, d'une certaine manière. J'ai été frappée tout à l'heure de vous entendre Thierry d'Olivet dire que vous aviez essayé de réagir en augmentant le nombre de ruches. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'on entend dans toutes les fermes. Il s'agit d'augmenter pour essayer de s'en sortir, parce que sinon, la mort n'est pas loin. Et est-ce qu'il est véritablement possible, après vous, de juste arrêter les pesticides, mais de continuer les monocultures intensives comme elles se pratiquent? Et est-ce que vous, en tant qu'apiculteur, vous garderiez les mêmes méthodes d'apiculture, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça vous permettrait, s'il n'y avait plus ces pesticides, de revenir peut-être à d'autres méthodes d'apiculture qui seraient moins justement dans cette volonté d'essayer de dépasser le problème en faisant toujours plus? Jean Sabinck.
Tout d'abord, dire que, hélas, il n'y a pas que les néonicotinoïdes, hein, pour l'abeille, qui sont toxiques. Les désherbants, au premier rang desquels le Roundup, qui est le plus utilisé de tous, est très toxique pour l'abeille. Et il y a aussi les fongicides. Ne l'oublions pas, il y a tout cet ensemble de pesticides.
D'accord, mais ma question reste.
On a développé l'agriculture de mode industriel, en simplifiant au maximum, en niant un petit peu la relation entre la plante, le sol, son environnement, et en supprimant une diversité. On a supprimé les haies, on a supprimé pour pouvoir passer avec des machines plus grandes, mais les haies, elles hébergeaient beaucoup de ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, qui sont les prédateurs des parasites. Tout ce qui pouvait aider à essayer de se passer de pesticides, quand on utilise un pesticide, on le tue. Donc il faut concevoir une agriculture autrement. Mais bien sûr, c'est pas évident de changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui cultivent sans pesticides qui ont de très bons résultats. Hein, il y a du bio, mais il y a autre chose. Il y a le réseau d'agriculture durable. Il y a tout un tas d'expériences. On parle d'agroforesterie, on parle d'agroécologie. Il y a énormément de techniques différentes, mais il faut changer. Et beaucoup d'agriculteurs, en plus, sont inclus dans un système qu'ils soient coopératifs ou autres, où on leur fournit, c'est la même entreprise qui leur fournit les semences, qui leur fournit les engrais, qui leur fournit les pesticides et qui rachète la production. Donc c'est une intégration. Et quand on est dans cette situation-là, vouloir changer, c'est difficile. Parce que, par exemple, quelqu'un qui produit pour une entreprise qui fait des conserves ou autre, on leur dit quelles sont les plantes, variétés qu'il faut semer, à quelle date il faut faire tel ou tel traitement, et voilà, donc ils sont pieds et poings liés là-dedans. Donc, mais ce changement, il est inéluctable, parce qu'on ne peut pas continuer à détruire la nature comme ça, et ensuite mettre en cause la pérennité des sols, la pérennité de l'environnement, pour nous et les générations qui vont venir aussi.
Et du côté de l'apiculture, donc?
C'est sûr qu'on a fait aussi cet évolution-là. Thierry disait qu'on a augmenté les ruches. Nous aussi, on a augmenté les ruches pour avoir essayé de produire toujours la même quantité ou produire suffisamment pour avoir un revenu. Et c'est ce que font beaucoup d'agriculteurs. Ils sont coincés dans un système. Mais à un moment donné, bon, si on en a la possibilité, il faut essayer de changer de ce système. Il y a, bon, par exemple, tout ce qu'on a essayé, sans trop se poser de questions sur les conséquences, d'importer des races différentes, de faire des traditions de croisement d'abeilles et tout. Et est-ce que peut-être essayer, s'il est possible encore d'y revenir, d'avoir quelque chose qui soit adapté au milieu où on vit?
D'autant que dans ces multiples croisements que vous évoquez, beaucoup de races locales se sont perdues. Alors est-ce qu'un retour aux races locales serait encore possible? Est-ce qu'il serait souhaitable?
Ça peut être possible, mais ensuite, il y a des gens qui avaient déjà travaillé sur l'abeille noire et montré qu'on pouvait obtenir de bons résultats avec l'abeille noire. Il fallait la travailler dessus. Ça semblait plus facile de faire appel à des caucasiennes ou autre chose, des italiennes, tout un tas de croisements qui avaient un intérêt. Mais ensuite, comme l'abeille se fait féconder à une certaine distance, jusqu'à 10 km de son rucher, par des mâles qui viennent d'ailleurs, on ne maîtrise pas du tout, comme avec les animaux d'élevage, les croisements que l'on fait et les conséquences que ça a pour l'environnement. Ensuite, il y a l'autre aspect que dans beaucoup d'endroits aussi, l'agriculture industrielle a tout transformé les milieux. Ça aussi, ça a un impact sur l'abeille. Mais je crois qu'il faudrait revoir et réfléchir de nouveau à tout ça. Mais cette évolution vers un écotype de l'abeille, elle peut être faite, elle a un sens, que s'il y a un écotype végétal cultivé à côté, qui soit quelque chose, si on trouve le même partout, ça ne rime à rien non plus. Hein.
Bien sûr. J'ai même entendu dire qu'il y avait des fécondations artificielle d'abeilles, Thierry d'Olivet ?
Oui, effectivement, ça existe aussi dans la recherche, ceux qui sont dans une recherche d'une race très particulière, de maîtriser un certain nombre de caractères génétiques, donc d'avoir recours à l'insémination artificielle. Bon, bah, c'est une pratique qui est quand même très peu répandue en France. Bon, pour moi, le chemin, il passe pas par là. Mais c'est vrai que notre mise en question, elle a été aussi de simplement essayer de se relocaliser, d'avoir un lien plus direct avec le consommateur. C'est-à-dire que plutôt que de faire une production en tonnage plus importante, qui partait à l'époque beaucoup donc à l'export, enfin en Allemagne, un gros consommateur de miel, de tout conditionner en pot et de, par là même donc de mieux valoriser et d'avoir des circuits finalement beaucoup plus courts en termes d'écoulement du miel de production, et qui fait que dans la mesure où on a une production locale avec une valorisation, c'est-à-dire là il n'y a pas de transformation hein, dans la production de miel, mais disons que la mise en pot et donc le conditionnement fait qu'on n'est plus obligé non plus d'avoir autant de colonies, puisqu'il y a une valeur ajoutée qui vient en plus.
Donc la relocalisation, c'est une autre des solutions. Toujours, bien sûr, à condition qu'il n'y ait plus de pesticides. On réfléchit là toujours dans ce cadre-là.
Oui, on fait une hypothèse, un pari sur l'avenir qui pour l'instant est encore bien lent à arriver, puisqu'on se contente pour l'instant, enfin quand on, je veux dire, les politiques se contentent pour l'instant de faire une course en avant, c'est-à-dire d'interdire une molécule tout en laissant une autre autorisée qui est une sœur et qui fonctionne pareil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout cet aspect procédure d'homologation qui est en cours de révision.
Qu'est-ce que vous appelez procédure d'homologation ? Il faudrait expliquer.
Toutes les molécules qui sont, avant d'être autorisées, sont donc étudiées, pas toujours de façon très indépendante, puisque finalement c'est le producteur, le fabricant d'une molécule qui dépose un dossier, que l'État ne prend pas le temps de vérifier, elle se base sur les chiffres qui sont proposés. Il n'y a rien de transparent, puisque le fabricant donne bien les papiers qu'il veut donner, et pas tous. Toutes les études qui ont été faites ne sont pas divulguées. La réalité d'aujourd'hui, c'était que dans ce cas, par exemple, de semences enrobées, au début, l'argument était de dire les abeilles ne vont pas être confrontées avec un pesticide qui est enfoui dans le sol. Et de cette façon-là, c'était une façon de contourner le fait de faire une expérimentation abeilles-pesticides. Donc aujourd'hui, l'évolution des procédures d'homologation fait qu'il y aurait peut-être d'ici quelques années une meilleure prise en compte de l'abeille, au vu des connaissances qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pas simplement de la toxicité aiguë, mais de l'impact des pesticides sur l'ensemble de la colonie. Et c'est à travers toute cette prise en compte beaucoup plus globale que peut-être, si les procédures d'homologation devenaient un peu plus strictes et cohérentes, il y aurait une meilleure protection des pollinisateurs. Mais pour l'instant, on est toujours dans une course en avant.
Mais là, moi, ce que j'aimerais vraiment pour conclure, c'est ça que je vous demande, c'est... Qu'est-ce que vous envisagez comme voie de sortie ? Est-ce que vous avez la possibilité, là où vous êtes en tant qu'apiculteur, d'agir pour essayer d'améliorer le bien-être de vos abeilles, ou est-ce que vous êtes juste complètement démuni et sans défense ? C'est ça que j'essaye de comprendre. Jean Sabin.
Il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a ce qu'on peut faire localement, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a créé la coordination apicole européenne, avec des apiculteurs d'un certain nombre de pays, pour essayer d'intervenir au niveau européen, auprès du Parlement européen, auprès de la Commission européenne, et leur faire prendre en considération que l'autorisation des pesticides n'était pas faite de façon sérieuse et de façon comme ça devrait être fait. On a eu, c'était à la suite de ça, de tout ce travail qui a duré 5 ou 6 ans, que l'Europe a pris une décision de suspension provisoire est très limitée. Mais ce qu'on fait actuellement, et on continue d'essayer de montrer et de réagir au fait que les tests qui sont obligatoires pour tester la toxicité des produits sur les abeilles, ces tests-là, ils sont construits en grande partie par les fabricants de pesticides. C'est eux-mêmes qui disent comment il faut faire.
Oui, c'est ce que Thierry d'Olivet était en train de nous dire, effectivement. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que la seule façon que vous avez de lutter, c'est de lutter auprès des lobbies, auprès des instances européennes, et que si vous ne gagnez pas ce combat-là, les abeilles perdront.
Ça passe par là, ça passe aussi par un combat politique aussi au niveau national en même temps, et pour que tous les décideurs prennent en compte la réalité qui est en train de se produire. En gros, si on ne change pas la politique agricole commune et on continue à subventionner le système actuel, le système aura beaucoup de mal à changer.
Thierry Dolivet ?
Oui, je crois que c'est important de donner de l'espoir un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire que tout un chacun, à son échelle, aussi petite soit-elle, je veux dire, ce sont toujours les citoyens qui finissent par faire bouger, qui vont finir par faire bouger les politiques. Le simple fait d'acheter un produit, un légume qui a été produit sans pesticides, c'est un signal lancé aux politiques. À un certain niveau, on laissait les politiques soucieux des sondages et de voir un petit peu quel est les motivations de la population, et le jour où on verra de plus en plus de légumes poussés sans pesticides consommés, ça donnera peut-être aussi du courage aux politiques ou une légitimité aux politiques pour favoriser une politique agricole qui a moins recours aux pesticides.
On n'arrivait même pas à dire qu'il n'a plus recours aux pesticides.
C'est un objectif lointain. C'est vrai que l'objectif a l'air tellement inaccessible, mais c'est une réalité quand même de tous les jours qu'on est quand même nombreux à pouvoir produire sans pesticides, évidemment. Mais là, on raisonne à une échelle, je veux dire, de là, il faut franchir pas par pas. Donc il faut savoir être patient aussi.
Jean Sabin ?
Oui, la difficulté, c'est que cette évolution du mode de production... Globalement, elle est assez lente. Il y a de plus en plus de gens qui produisent sans pesticides ou avec moins de pesticides, mais globalement, la consommation des pesticides ne diminue pas. Elle est très lente. Par contre, la détérioration...
Elle augmente même.
Oui, la détérioration du milieu naturel et des abeilles actuellement, elle augmente à grande vitesse. Et on en est à un point où s'il n'y avait pas d'apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles mellifères. Donc, est-ce que si le changement de mode de production par rapport aux pesticides n'est pas assez rapide, est-ce qu'il y aura encore des abeilles? Voilà. Et c'est une décision qui n'appartient pas aux politiques uniquement, c'est une décision qui concerne tout le monde. Dans quel milieu veut-on vivre? Quel mode de société souhaite-t-on? C'est finalement, on retombe là-dessus, sur cette question qui est la question fondamentale.
La question que je me pose, c'est... Qu'est-ce que ça signifie être apiculteur bio quand on voit toute l'avalanche des problèmes qui tombent sur les ruchers et contre lesquels vous ne pouvez finalement pas grand-chose en dehors de ce combat politique et judiciaire qui est le vôtre ? Jean Sabinck.
Il y a deux choses. Bon, il y a le combat qu'il faut mener. C'est un combat pour essayer de faire changer ce qui ne va pas. Et bien, c'est aussi un combat pour que les gens et les agriculteurs et les consommateurs aussi prennent conscience de la réalité du problème et de son ampleur. Ensuite, concernant notre façon de travailler, d'abord notre cheptel, les abeilles, mais essayer de d'éviter au maximum de les exposer à ces produits-là, donc on change de zone de butinage, sachant que, bien par exemple chez moi, quand je vais faire du miel de romarin, il y a des vignes qui sont pas loin aussi, bon, on peut pas tout à fait, mais en même temps aussi, faire que l'abeille puisse vivre mieux dans les ruches dont on s'occupe.
De quelle manière?
Bon, déjà, en essayant de limiter l'entrée extérieure de pesticides. D'autre part, en n'utilisant pas soi-même des pesticides, et en utilisant... Dans les ruches elles-mêmes, il y a le parasite de varroa qu'il faut traiter. Il y a différentes façons de traiter. Hein. Au début, avant de passer en bio, je ne me posais pas trop de questions. Je n'aimais pas trop les pesticides, mais enfin, on en avait utilisé, comme tous les collègues, parce qu'on n'avait pas de solution, on n'avait rien d'autre. Et c'est comme ça qu'on a sauvé notre cheptel. En bricolant, on nous a accusé qu'on bricolait, mais si on n'avait pas bricolé, on n'avait plus d'abeilles. Et ensuite, petit à petit, on est passé à des traitements qui sont... un peu moins toxique, comme j'utilise actuellement d'acide oxalique, qui est naturellement présent dans le miel en petite quantité. Ça fait toujours un choc aux abeilles, mais si on ne fait pas ce traitement, on n'a plus rien. Bon, ensuite, on utilisait dans le temps des produits de conservation des rayons de cire pour qu'on enlève la hausse, les cadres de miel. Il faut bien les conserver, sinon il y a ce qu'on appelle la faustaigne, qui est une espèce de mite qui vient manger, dont les larves mangent Sinon, moi, je l'ai trouvé simplement un petit appareil ultrasons qui permettait de se passer de aucun produit et mettre dessus. Il y a des techniques de conservation de ça. Après, il y a l'alimentation de l'abeille quand on doit compléter les provisions.
L'alimentation de l'abeille, ça consiste à lui donner de l'amidon de maïs, c'est ça ? Enfin, quelque chose de sucré.
C'est un produit à base de sucre, parce que l'abeille mange du sucre. Hein. L'idéal, c'est du miel. Et si possible, si on a donné du miel, il faut donner du miel qu'on a produit soi-même, parce que le reste, si on achète du miel, on ne sait pas comment il a été produit. Mais quand on produit très peu de miel, ce n'est pas toujours évident. Bon, il faut leur laisser le maximum de provisions possible. Et puis ensuite, si on est conduit à donner du sucre, eh bien c'est au moins du sucre bio, au minimum. Mais bon, et essayer de faire le moins possible.
Mais pour terminer sur ce sucre, l'amidon de maïs, on ne sait pas d'où il vient. Il pourrait très bien être américain, donc transgénique.
Ah non, mais on ne donne pas de sucre à d'amidon de maïs. Hein. Ah non, c'est du sucre, actuellement, c'est du sucre de canne bio. Avec une certification bio, sinon, on le paie plus cher. Mais bon, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc, on peut aussi, si on veut que les autres se remettent en cause, il faut aussi se remettre en cause soi-même et remettre en cause les pratiques que l'on a. Il y en a certaines, bon, comme je disais, le traitement contre la varroise, on est quand même obligé de mettre des produits dans la ruche, essayons de mettre le moins toxique, essayons de faire que les abeilles vivent. C'est comme tous les animaux, hein. Quand on veut faire un élevage animaux, si on veut que ça se passe bien, il faut qu'on leur fasse faire ce qu'ils sont capables d'accepter au mieux.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Bouzon, mixage, Jason Taouf, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Des abeilles. Et je demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.